18-20.
Le 18-20 ce soir sur le numérique à l'école. Apprendre avec les ordinateurs, apprendre la langue que parlent les ordinateurs, apprendre à se servir des ordinateurs. La liste n'est évidemment pas close, mais elle donne déjà une idée de l'immensité de la tâche, une de plus, qui incombe à l'école. Le consensus veut que l'école d'aujourd'hui soit numérique. Quelques voix s'élèvent pourtant fortement pour le remettre en cause. Si les écrans sont partout, que l'école soit un sanctuaire qui préserve la place des autres savoirs en train de devenir minoritaire. Le débat est intéressant sur le plan intellectuel et il résonne aussi très étrangement aujourd'hui, alors qu'on vient d'apprendre que le niveau en mathématiques des élèves de CM1 et de Terminale S est en chute libre en France. Toutes vos questions sur le sujet dans le téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter, parce que nous sommes modernes, avec le mot-clé Telson, franceinter.fr pour le courrier électronique, 01 45 24 7000 pour ceux qui préfèrent le téléphone. C'est le cas de Lorenzo, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, vous démarrez, vous ouvrez ce téléphone sonne.
D'accord, en fait c'est plus une remarque, mais je trouve que ça pose une bonne question apparemment. C'est Steve Jobs qui avait été interviewé le 10 septembre 2014 par un journaliste qui s'appelle Nick Bilton dans le New York Times, et il s'avère que en fait Steve Jobs était un parent low-tech. Et voilà, donc c'est-à-dire c'est le journaliste qui a été visiter Steve Jobs et il lui dit: ah ouais, évidemment, vos enfants doivent être pleins de iPad, d'iPhone, etc. Et il sent Steve Jobs qui est un peu réservé et finalement qui finit par lui avouer que surtout pas, il limite absolument l'utilisation de tous les gadgets, il les évite à la maison, et même en fait il va plus loin, et apparemment il a même inscrit ses élèves. Les enfants, pardon, à une école où il n'y a pas d'utilisation d'informatique. Et après, le journaliste s'est aperçu qu'en fait, c'était le cas de quasiment tous les chefs d'entreprise de la Silicon Valley. Donc, ça me paraît intéressant de savoir que de la part d'un génie de l'informatique qui a vendu des millions d'iPad et d'iPhone, etc., qu'en fait, il protégeait ses enfants en disant, si je veux qu'ils réussissent comme moi, il faut qu'ils fassent comme moi, qu'ils apprennent déjà les bases sans informatique, enfin, apparemment. Voilà.
Merci Lorenzo de nous avoir rappelé le détail de cet entretien qui avait fait effectivement grand bruit. L'enquête également, vous nous appeliez de Paris. Pour répondre et pour débattre au téléphone sonne ce soir, je salue Jérôme Lagaillarde. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de lettres au collège Georges Méliès à Paris, formateur au numérique à l'atelier Conapé, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique, et à l'Académie de Paris. Anne Cordier, bonsoir.
Bonsoir.
Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rouen chez CEF Éditions. Vous avez publié Grandir connecté, les adolescents et la recherche d'information. Philippe Biwix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur, essayiste, auteur avec Karine Movilly de ce livre publié aux éditions du Seuil et qui s'intitule Désastre de l'école numérique. Cette interview de Steve Jobs n'est pas passée inaperçue dans votre livre.
Non, effectivement, on s'en sert un peu comme une accroche, mais sachant qu'il y a un côté un petit peu anecdotique là-dedans, c'est-à-dire que Steve Jobs est effectivement quelqu'un dont on dirait qu'il a un contrôle parental important et qu'il a essayé de transmettre sans doute un usage modéré et intelligent du numérique, c'est-à-dire de ne pas laisser à ses enfants...
Voire minimaliste. Voire inexistant.
Bon. Alors surtout les pontes de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants dans les écoles sans écran, en fait, bon, il y a un peu un tropisme américain, c'est-à-dire que quand on a de l'argent aux États-Unis, on met plutôt ses enfants dans des écoles privées. Il se trouve qu'il y a un réseau Steiner-Waldorf assez développé aux États-Unis en écoles privées et qu'on a plutôt tendance dans ces écoles, effectivement, à privilégier un certain nombre de choses, notamment pour les plus jeunes, sur les activités manuelles. On fait de la couture, on fait de la poterie, des choses comme ça. Alors, les écrans sont pas forcément complètement bannis, mais c'est clair qu'ils sont pas aujourd'hui à s'être projetés dans une course en avant technologique de l'école pour dire il faut être moderne et s'inscrire dans le 21e siècle.
Mais par-delà l'anecdote, que dit ce mouvement-là, en tout cas aux États-Unis, de la part des gens qui façonnent, qui inventent le monde numérique, d'après vous ?
Je crois que la question,
quand on a les moyens, on évite ?
Non, c'est une question d'âge et une question de généralisation. C'est-à-dire que le numérique peut être formidable, ça peut être une ouverture sur le monde, etc. Enfin, on peut trouver toutes ces expressions d'ailleurs superbes dans tous les rapports qui prônent l'école numérique. Mais la question, c'est à quel âge on est capable effectivement d'avoir construit ses propres bases, d'avoir de s'être inscrit dans sa propre histoire, dans sa propre région. pour ensuite pouvoir se projeter sur le monde, effectivement, et que si on est jeté dans les méandres d'Internet dès l'âge de 10 ou 11 ans, et ben Internet, c'est sans doute un endroit qui peut être formidable, mais ça peut être un endroit aussi qui est très dangereux. Et est-ce que si vous aviez, je sais pas, une forêt ou un parc qui peut être très sympathique et très intéressante, mais aussi très dangereux, c'est ce que vous laisseriez vos enfants s'y promener tout seuls?
Et alors, c'est à peu près à quel âge, d'après vous, Philippe Biwix, que les choses peuvent se passer de manière vertueuse?
Ben nous, notre sentiment, c'est que, alors, faut savoir qu'aujourd'hui, le plan numérique à l'école, l'offensive est plutôt sur le collège, mais qu'il y a déjà des rapports, par exemple, l'Institut Montaigne qui préconise d'étendre ce plan numérique à l'école primaire. Il y a même des turiféraires du numérique vont jusqu'à l'école maternelle, hein, si vous allez à Élancourt, par exemple, chez Monsieur Fourgous. Et puis, vous avez même des crèches dans lesquelles il y a des coins tablettes. Pour nous, aujourd'hui, le risque sanitaire est trop important pour plein de raisons jusqu'à l'école primaire. Et au collège, c'est le moment où on a des risques plutôt psychosociaux, des risques d'addiction liés au temps d'écran, trop de temps d'écran. Et donc, le bon âge pourrait être, par exemple, on va dire, l'entrée au lycée, où là, typiquement, on va avoir construit les bases pour se projeter.
Anne Cordier, votre analyse à la fois de l'anecdote sur les pontes de la Silicon Valley et la scolarisation de leurs enfants, et sur la question de l'âge aussi, à partir de quel moment on met les écrans entre les mains des enfants, des élèves, des lycéens, des collégiens?
Alors à propos de l'anecdote, je crois que Philippe a cerné hein, le contexte. Hein, il faut faire quand même aussi attention à ces discours d'accompagnement, tous ces imaginaires autour. Hein,
Il y a une part de légende.
Voilà, oui. Il y a une belle part de légende, hein, comme de construire un ordinateur dans une cave avec une pomme. Et voilà,
Même donc... si c'est vrai aussi. Hein.
Oui, ça oui.
C'est parti d'un garage. Hein.
Tout à fait. Dans toute légende, il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part de fantasme. Par contre, pour votre question par rapport à l'âge, moi, je vais répondre à Steve Jobs par la parole de Armel, en fait, tout simplement, qui, interrogée, me répond que c'est pas parce qu'elle a un iPhone qu'elle est calée, et qui me dit « Moi, concrètement, je suis laissée de côté, au bord de la route, j'ai aucune chance de vraiment progresser et d'être à la hauteur des autres un jour ».
Elle vous dit ça dans quel contexte et
elle
pour dire quoi?
Elle me dit ça dans quel contexte? Alors, je fais des recherches sur les adolescents, sur le terrain, dans l'école. Et Armel a eu un travail à réaliser en classe de terminale, donc on est au lycée. Et elle a dû réaliser un carnet de voyage dans le cadre d'un projet interdisciplinaire documentation anglais. Et il se trouve qu'on considère qu'ils savent faire. Et que du coup, finalement, il n'y a pas besoin de les accompagner.
Ils savent faire, c'est-à-dire ils savent se servir d'un ordinateur, ils sont équipés.
Voilà, et ça c'est tout le mythe autour des digital natives, etc.
Mais en fait, donc ils ne savent pas faire.
Mais non, ils ne savent pas faire, et l'urgence, me semble-t-il, est bien avant le lycée, parce que quand vous manipulez un ordinateur, on manipule pas, c'est pas une fourchette. Désolé pour la comparaison, c'est l'heure du repas, mais c'est pas une fourchette quoi. C'est une technologie intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle m'aide à penser, elle supporte la pensée, elle véhicule des informations. Et il faut que je sois en mesure de les traiter et de conceptualiser. Et ça, c'est quand même dès le plus jeune âge.
Jérôme Lagaillard, de Steve Jobs, à nos enfants, à nos élèves, à nous, et à l'âge auquel il est bon de mettre un ordinateur entre les mains des lycéens, des collégiens.
Des lycéens. Alors moi, le constat de Steve Jobs, en fait, l'anecdote, je la trouve quand même effectivement plutôt cynique. Moi, ce que je constate, c'est que le numérique, il est déjà là. Je travaille pour des élèves de l'éducation prioritaire qui sont quand même plutôt bien équipés. Et je pense vraiment que l'école, elle a quand même pour mission d'accompagner dans les usages. Et pas forcément trop tôt, mais le collège me semble un bon moment. Et je crois qu'elle est là aussi pour accompagner vers des usages raisonnés des outils numériques, des usages intelligents. C'est ce qu'on essaie de faire sur le terrain.
Donc c'est apprendre à se servir d'un ordinateur, apprendre à naviguer sur Internet, apprendre à hiérarchiser des sources d'informations, c'est ça
c'est
ce
exactement
que vous essayez de transmettre
C'est d'en tirer le meilleur parti et puis de justement d'encadrer les élèves dans l'apprentissage avec ces outils numériques.
Geneviève, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur et nous vous écoutons.
Oui, je suis formatrice à l'ESPE, chercheuse au MIRAI à Toulouse sur la compréhension lecture pour les élèves dyslexiques. Donc mon intervention, je vais essayer d'être brève, c'est d'abord une question de moyens. Parce que lorsqu'on parle du numérique, on est loin de l'équipement dont on rêve. J'ai justement fait un sondage cet après-midi auprès de mes étudiants. Sur 21 étudiants, la plupart n'avaient qu'un seul poste informatique dans leur classe, donc même pas de tablette, on en est très loin. Deuxième remarque, la formation des enseignants. Il y a parfois des dotations, mais les enseignants qui sont d'une ancienne génération et qui ne sont pas habitués à ces outils ne profitent pas des dotations par peur de cet outil qu'ils ne maîtrisent pas. Mmh. Et enfin, je voulais conclure en disant que je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit par vos invités, à savoir que le numérique, ça n'est pas la panacée et qu'il y a d'abord des capacités cognitives à développer et qu'il faut être très très prudent. Moi, mon terrain, c'est les troubles spécifiques des apprentissages. Et c'est vrai que, par exemple, dans ce domaine, on dit tout et n'importe quoi sur le numérique. Et le problème, c'est que la formation des enseignants aussi est très limitée et n'est plus dévolue aux espèces. Ce sont beaucoup des conseillers pédagogiques qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont éloignés de la recherche. Et donc, les enseignants, même en peu de formation continue qu'ils ont, ne sont pas à même d'appréhender les données de la recherche sur le numérique.
Mmh. Merci Geneviève pour cette intervention. Je donne la parole à François, qui est également enseignant en collège, avant de faire circuler la parole ici en studio. Bonsoir François, vous avez la parole.
Bonsoir. Oui, effectivement, je suis enseignant et je suis aussi administrateur réseau dans un collège, c'est-à-dire qu'en plus de mon métier de professeur, je dois faire en sorte que les élèves puissent se servir d'ordinateur, puis mes collègues aussi, qui fonctionnent. Et c'est notamment quand il s'agit d'utiliser Internet qu'on a d'énormes problèmes, et c'est pas que dans mon collège, c'est dans plusieurs autres.
Des problèmes de quelle nature ?
Tout simplement parce que le débit qui nous arrive est très insuffisant, et ça apparemment, ça n'a pas été anticipé par l'éducation nationale. On nous demande, nous professeurs, de faire en sorte que nos élèves se servent d'Internet et puis des ordinateurs. Et dans nos salles informatiques, par exemple, on est obligé de les mettre à 4-5 par poste pour qu'ils aient un tant soit peu de débit et qu'ils puissent arriver à faire les recherches qu'on leur demande de faire. Donc c'est réellement un gros problème, et puis c'est extrêmement frustrant pour nous professeurs quand on prévoit de faire des choses à nos élèves et puis qu'une fois arrivé dans la salle info, on se rend compte que ça fonctionne pas.
Merci François. Alors dans ces deux interventions, François et Geneviève, et je vous donne tout de suite la parole, Anne Cordier, il y a la question de l'équipement, du niveau d'équipement, les questions donc des ordinateurs en eux-mêmes, mais aussi des débits pour ce qui est Internet, la question de la formation aussi des enseignants. Anne Cordier.
Alors d'abord sur l'équipement, effectivement, François souligne vraiment l'injonction paradoxale qui est il faut utiliser, mais effectivement les équipements ne sont pas forcément à la hauteur.
Il faut utiliser, mais débrouillez-vous.
Voilà, alors ce qui est vrai, c'est que c'est malheureusement une injonction à laquelle les enseignants font depuis longtemps finalement face. Moi, j'ai moi-même été enseignante pendant 8 ans en collège et c'était les mêmes problèmes avec effectivement cette nécessité à chaque fois qu'on engageait l'outil numérique dans une séquence pédagogique, finalement de penser ce qu'on appelle un plan B. Et si ça marchait pas ? Parce que se retrouver face à 25, 30, 35 élèves avec un scénario pédagogique conçu autour d'un outil qui
peut ne pas marcher,
vous fait défaut, ça pose quand même problème. Alors deuxième chose sur la formation des enseignants, je vais me permettre de répondre à Geneviève et plus généralement d'élargir. Je suis moi-même formatrice en ESPE. Je forme des enseignants. Et en ESPE, on a quand même des plans de formation où on intègre la culture numérique dans les enseignements disciplinaires des enseignants. Alors bien sûr, c'est pas parfait, il faut du temps, il faut former tout le monde, c'est très long. Il y a aussi des directions académiques du numérique en éducation qui font un travail de formation. Mmh. Et tout ça, c'est très très long. Et puis, dernière chose, sur la question du lien aussi avec les chercheurs, Geneviève a eu raison d'insister sur la méconnaissance peut-être de la part des collègues enseignants des travaux des chercheurs, mais je pense que là, pour le coup, en tant que chercheur, on doit assumer cette responsabilité sociale qui est de diffuser nos travaux, d'en parler et d'aller sur le terrain pour travailler avec les enseignants.
Philippe Biwix, sur la double question de l'équipement et de la formation.
C'est assez rigolo parce que ça fait en fait écho à quasiment 150 ans d'utopie techno-pédagogique de l'école.
C'est-à-dire expliquez-nous.
Qu'en fait, Alors, bah, à la fin du 19e siècle, on a Alfred Molteni, fabricant de lanternes magiques, hein, l'ancêtre de PowerPoint, on pourrait dire, qui va convoquer des inspecteurs pédagogiques et faire des démonstrations pour montrer comment ça va motiver les élèves. On va avoir des ressources un peu illimitées, formidables, exactement comme aujourd'hui sur le numérique. Puis après, on va passer à Edison dans les années 1910, qui promet 100% d'efficacité des films éducatifs, évidemment lui vend des projecteurs, par rapport à 2% pour les manuels scolaires. Ne me demandez pas comment il faisait le calcul. Puis ensuite, ça va être la radio. C'est un peu comme les MOOC, la radio. On va avoir les meilleurs profs qui vont faire des cours par radio, puis par cinéma. Et puis après, on va continuer avec l'informatique, comme on l'appelait dans les années 70 et 80. Et en fait, à chaque fois, il y a eu évidemment plus ou moins les mêmes promesses, mais surtout à chaque fois, c'est la voix de l'équipement, c'est les effets d'annonce, la magie des chiffres. Alors ça peut être 100 000 ordinateurs. Après, aujourd'hui, c'est une tablette par élève. Et on pousse tout ça devant, l'intendant suivra plus ou moins. Alors évidemment, à chaque fois, ça plante, on n'a pas le temps de s'en apercevoir parce qu'une nouvelle technologie est venue chasser l'autre. Hein. Et puis, je vous fais le pari que derrière la tablette, dans quelques années, on aura à peine eu le temps d'équiper nos 3,3 millions de collégiens, qu'on sera déjà passé à autre chose, Google Glass ou un truc intégré, on verra bien. Mais du coup, on est dans cette logique-là de dire on équipe. On a plein de promesses. Les promesses sont pas tenues parce que les ressources sont pas suivies, la formation a pas été assez vite, etc. Et évidemment, toute chose qu'on se promet de régler la prochaine fois.
Donc vous pointez une certaine idéologie au fond un certain rapport idéologique à la technique.
Disons que ce qui pose problème, c'est que moi je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il faut effectivement éduquer au numérique, c'est-à-dire qu'on forme des citoyens, le monde est numérique, qu'on le veuille ou non. Moi je suis pas particulièrement technophobe, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai internet à la maison. On est tous d'accord qu'il faut effectivement apprendre à utiliser au mieux ces outils. La question, c'est qu'aujourd'hui, le plan numérique, c'est pas tout à fait ça. Et je pense qu'ici, on a deux praticiens dans le studio qui approchent le numérique peut-être d'une bonne manière. Mais les injonctions, aujourd'hui, la hiérarchie pédagogique, les injonctions des inspecteurs, quand ils vont voir les profs, les chefs d'établissement, etc., c'est pas éduquer au numérique, c'est éduquer par le numérique. C'est-à-dire qu'on doit venir bousculer l'approche pédagogique, qui était certes sans doute pas parfaite, parce que la crise de l'école, elle est là. Je veux dire, il s'agit pas forcément de revenir à l'école d'avant. Mais il faut venir bousculer pour le meilleur et pour le pire, dans toutes les matières, c'est François Hollande d'ailleurs qui l'a dit, il faut faire du numérique dans toutes les matières, y compris l'éducation physique et sportive. Alors il faut se filmer avec une tablette pour corriger le passage de haies, pour corriger la gymnastique. Voilà, il faut absolument faire ça. Et ça, effectivement, c'est idéologique, parce que il y a des matières qui se numérisent mieux que d'autres, plus ou moins vite, c'est plus ou moins efficace, plus ou moins intéressant.
Mais pourquoi le désastre de l'école numérique?
Alors le désastre, rassurez-vous, il est encore...
Il est à venir,
ce n'est qu'un désastre.
Rassurez-moi.
Voilà, ce n'est qu'un désastre annoncé, c'est pas un désastre établi. Mais effectivement... alors pour plusieurs raisons...
C'est déjà pas brillant en maths, hein.
Voilà, alors,
aujourd'hui.
Absolument. Alors effectivement,
Si ça a à voir avec les ordinateurs, mais
c'est un peu difficile. Alors il se trouve que le peu de choses qu'on a, on a très peu de méta-études et de choses dans la longue durée sur la question du résultat de l'école numérique par rapport à une école non numérisée. On a effectivement un résultat de une étude de l'OCDE qui est sortie en 2015 sur la base des résultats de PISA 2012. Alors PISA, c'est pas parfait. Bon, ça a le mérite, d'essayer de s'inscrire dans une certaine dynamique et de voir un peu l'évolution. Mais il se trouve que l'OCDE, qui est pourtant très technophile, a reconnu qu'en gros, il n'y avait pas de corrélation dans les différents pays, de corrélation entre l'effort d'équipement numérique des écoles et le résultat, les performances des élèves. C'est-à-dire qu'en gros, le numérique, on n'apprend pas mieux avec le numérique. On peut faire de la pédagogie active sans numérique. On peut faire de la production de contenu sans tweak. On peut faire de la classe inversée sans vidéo en disant qu'on va lire des manuels. On peut faire, voilà. Et donc, c'est un non-sens, du coup, pédagogique, on va dire. Il n'y a pas de rationalité derrière ça. Par contre, à côté, il y a des vrais effets qui, eux, sont désastreux. Effets sanitaires potentiels. On a des élèves qui passent déjà 2, 3, 4, 5 heures en dehors de l'école sur des écrans, et l'école va légitimer le temps d'écran, parce que l'écran, ça devient bien. Au lieu d'avertir les parents qu'il faut faire attention à l'écran, on va dire, il y a des écrans à l'école, donc c'est parfait. Et puis connecte-toi, mon fils ou ma fille, sur ton cahier texte numérique pour faire tes devoirs, etc. Donc on va rajouter du temps d'écran au lieu d'alerter. Et derrière, il y a des risques psychosociaux, il y a des risques sur le temps de sommeil, il y a des risques sur le mal-être. Il y a plein d'études qui, là, pour le coup, corrèlent le temps d'écran avec ça. Et je vous parle pas, évidemment, de la question écologique, qu'on pourrait effectivement soulever, ou de la question sociale, avec le fait que tous les enfants du monde ne vivent pas l'école numérique de la même manière, hein, si on est en Chine, par exemple.
Jérôme Lagaillarde.
Alors moi, pour essayer de répondre à Geneviève et François, à la fois sur la question des moyens et de la formation, je pense que le plan numérique, il essaie d'apporter aussi des réponses à cela. Et là, c'est l'enseignant qui va parler. Je crois que dans les établissements scolaires, on peut le voir aussi comme une aubaine et puis se saisir de ces outils-là pour essayer d'en faire quelque chose. Parce que jusqu'à présent, effectivement, pratiquer le numérique dans ces classes a relevé parfois du défi. Aujourd'hui, on espère avoir à disposition des outils plus simples d'utilisation. Ensuite, moi, j'ai envie quand même de sortir un petit peu des représentations excessives du tout numérique, parce que dans la pédagogie, le numérique a sa place comme un levier. Hein. Je pense que ça peut être un bon levier pédagogique, mais je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants. Je crois qu'une majorité des enseignants ne sont pas dupes. Ils ne voient le numérique ni comme une baguette magique, ni comme une baguette maléfique. Et ils se rendent bien compte qu'on a quand même des leviers avec ces outils-là, utiliser ces outils-là.
Véronique, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes prof en collège.
Oui, en collège et en particulier dans une secta, c'est-à-dire pour des enfants qui sont en très grand échec scolaire. Hein. Et donc moi, j'ai une remarque et puis après une question. J'ai récemment fait une formation au sujet du socle commun, le nouveau socle commun, et où on nous a présenté un catalogue d'applications numériques avec une forme d'injonction. Voilà, c'est formidable, il faut utiliser ça et ça et ça et ça.
Et vous l'avez fait ou pas, Véronique ?
C'est quoi ? Ah ben non, parce que de toute façon, on n'a absolument pas l'équipement pour l'instant, hein, mais en cela, ça ne me dérange absolument pas non plus. Mais ce que je voulais dire, voilà, je voulais parler juste d'une petite chose. On nous a expliqué que, par exemple, moi je suis en collège rural, hein, et que si on voulait se faire rencontrer deux classes de collèges éloignés, comme l'écart coûte cher, n'est-ce pas, une visioconférence serait parfaitement adaptée. Et moi, j'ai posé la question, et le vivre ensemble, avoir les visages des autres en face de soi, le son de la voix, tout ça, bon, voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, ma question, c'est, enfin, mon interrogation, c'est à terme, on n'a absolument aucun recul sur les effets de l'utilisation du numérique à tout va, et à terme, qu'est-ce que ça va donner sur les générations à venir, justement, en termes de vivre ensemble, et puis de bien d'autres choses. Voilà.
Merci.
Je suis une vieille prof, hein, 52 ans.
Voilà. Mais non, vous êtes toute jeune, ça va pas, non, Véronique. Merci beaucoup pour votre intervention. Anne Cordier, comment souhaitez-vous réagir ?
Alors d'abord, rassurez Véronique, elle n'est pas si vieille prof que ça. Ensuite, il n'y a pas de clivage générationnel, en fait, hein, dans les pratiques pédagogiques, très sérieusement. Moi, pour avoir effectué des travaux sur l'utilisation du numérique dans l'éducation, je vois vraiment des enseignants de tout âge, hein, et de toute discipline, d'ailleurs, hein, qui vont avoir des pratiques très différenciées. Là aussi, faire confiance aux acteurs. Alors, effectivement, cette liste d'applications, bah, évidemment, elle...
Évidemment quoi, alors
Évidemment, ça ne sert à rien, mais comme quand moi, avec des étudiants, je vais leur dire, vous pouvez utiliser ça. Il faut mettre du sens derrière tout apprentissage. J'ai formé un enseignant en formation continue, c'est la même chose que quand je forme un élève ou un étudiant. Je dois mettre du sens derrière ce que je leur propose.
Donc, liste d'injonctions, ça sert à rien.
Mais non, parce qu'en plus, elle peut pas le contextualiser dans une pratique pédagogique déjà existante. Donc, elle a sûrement pas réussi à relier tout cela. Après, la question du recul, et là, par contre, j'aimerais, si vous voulez, vraiment préciser. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'il faut dépasser pour moi le pour ou contre le numérique, par exemple. Et moi, ce que je veux défendre ici, c'est pas l'éducation par le numérique à tout prix, c'est vraiment une éducation à la culture de l'information, à la culture des médias et du numérique. Et là, qu'est-ce que ça va donner à terme ? Ben, ça nous donnera quand même des êtres humains, des citoyens, comme on aime dire dans les discours, qui seront au courant du paysage médiatique dans lequel ils évoluent, qui sauront quand même hiérarchiser des sources d'information, qui seront en mesure de comprendre le fonctionnement de ces outils qu'ils ont entre les mains et d'avoir une forme de pouvoir d'agir quand même dessus. Et ça, ça me paraît fondamental. Donc, c'est l'entrée par la culture qui m'intéresse. Donner des connaissances pour agir.
Jérôme Lagaillard et puis Mathieu au standard. Allez-y.
Oui, alors moi, effectivement, je pense que la pédagogie ne se construit pas avec un catalogue et encore moins avec un catalogue d'applications. Mais je pourrais conseiller à Véronique de regarder plutôt l'aspect utiliser un dictionnaire, un enregistreur pour permettre aux élèves de mettre en voie de la lecture. Enfin, il y a des tas de petites choses que l'on peut faire très simplement et qui accompagne la pédagogie traditionnelle.
Philippe Biwix voulait dire un mot sur le témoignage de Véronique.
Oui, sur la question de quels citoyens ou quels adultes on forme demain. Bah effectivement, on n'en sait trop rien parce que ça va mettre longtemps, mais je vais juste citer deux exemples. Le premier, c'est sur la question de l'expérience cognitive. Alors, il y a un truc qui m'a laissé assez pantois. C'est un logiciel de dissection. De pelote de réjection, hein, donc de, alors il faut savoir que même si les data centers ont remplacé les vieilles granges, il y a largement assez de chouettes en France encore pour que chaque collégien en cours de SVT puisse disséquer une vraie pelote de réjection.
Ouais, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Comme
exactement,
quoi, c'était
Nicolas. C'est extrêmement marquant et c'est une expérience cognitive réelle parce que ça lie la main, le cerveau, etc. Mmh. Et comment peut-on imaginer que des élèves.
C'est dégueulasse et en même temps, c'est fascinant. Enfin, c'est vraiment un beau souvenir d'enfance.
Exactement. Ou l'œil de bœuf que ramenait peut-être le prof pour la dissection.
Non,
de la cornée.
Faut pas exagérer.
Voilà. Mais comment peut-on imaginer que l'expérience de faire glisser avec le doigt ou avec la souris le truc sur un logiciel va laisser la même richesse à les enfants? Ouais, ça, c'est un exemple, effectivement, de la construction de la personnalité, etc. L'autre question, c'est la question du rapport à l'effort, par exemple. Alors, je vais faire un peu vieux con, sans doute, mais aujourd'hui.
Allez-y.
Aujourd'hui,
c'est un mauvais moment à passer.
ce qui perturbe beaucoup aujourd'hui l'éducation nationale, c'est le fait qu'on a des élèves qui sont effectivement démotivés, qui savent plus. Et effectivement, on vit une crise de l'attention. D'ailleurs, cette crise de l'attention, probablement, elle vient du fait qu'on fait peut-être un peu trop d'écran et un peu trop de multitâches à la maison, par ailleurs. Et donc, on va utiliser le numérique pour essayer de remotiver les élèves et de recapter leur attention. C'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser le poison comme remède, hein, le pharmacone, quoi, quelque part, diraient
les Grecs anciens.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne un citoyen à qui on a banni pendant l'ensemble de son enfance, on va dire son adolescence, toute notion d'effort? Ben voilà, moi je sais pas. Alors le rapport à soi-même, le rapport à la construction de la personnalité, le pouvoir dépasser ses limites,
c'est
etc.
Très vieux, voilà. Con, hein, c'est très vieux con, ce que vous dites, mais voilà. c'est ça manque pas de sens, hein, Anne Cordier, non?
Eh ben, alors je vais pas dire quand même que ce que Philippe dit manque de sens, ne serait-ce que par respect pour le vieux con, hein, toujours, hein, n'est-ce
non,
pas
non, mais si on le prend sérieusement, la crise de l'attention
est
un vrai problème, et la disparition de l'effort aussi, oui, c'est dur d'apprendre, c'est long de lire.
Alors, par contre, je ne ferai pas de lien entre la crise de l'attention et l'effort, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, sur je vais travailler avec les élèves, la hiérarchisation de l'information, le décryptage d'un discours médiatique, ça demande énormément d'efforts, bien plus que ce qu'on pense.
Même nous, on sait pas faire.
Ah, ça, je me permettrai pas non plus.
Bon, vous pouvez. Hein.
non, mais vraiment, ça leur demande énormément d'efforts parce qu'on leur demande aussi de ramener à l'école des clés de compréhension qu'ils n'ont pas l'habitude d'activer à la maison. Et donc, du coup, ça leur demande de faire des liens entre plusieurs sphères. Ça leur demande de verbaliser des choses. Donc, je suis pas d'accord pour lier cette crise de l'attention et l'effort. Ce sont vraiment deux phénomènes complètement différents.
Mathieu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous avez la parole.
Merci. Voilà, je suis enseignant donc en lycée, en histoire-géographie, dans le nord de la France. Je vais distiller les poisons, puisque moi je me suis lancé depuis 2 ans avec l'accord de ma hiérarchie dans le tout numérique. Voilà, ça marche très très bien. Les élèves prennent leurs cours sur tablette, prennent leurs cours sur leur téléphone portable. Ça fonctionne avec un cloud, donc il n'y a plus de cahier en classe, il n'y a plus de manuel. Je fais mes propres outils, ça fonctionne avec un site. Il y a une grande adhésion de la part des élèves. J'ai réalisé l'année dernière une sorte de d'enquête satisfaction. On a une adhésion entre 80 et 90% pour la plupart des questions posées. Voilà, si vous liez la technologie avec des nouvelles façons d'enseigner, comme la pédagogie inversée, vous avez quelque chose de très intéressant.
Vous avez fait changer d'avis, Mathieu.
Il doit être très bien noté, d'ailleurs.
Mathieu, dites-nous alors comment vous faites exactement pour que ce soit à ce point parfait?
Non, le parfait n'existe pas. D'ailleurs, on peut avoir des problèmes techniques avec le matériel, des problèmes de connexion. Mais je pense qu'il y a un grand partage entre les élèves parce que ça permet de travailler ensemble, ça permet une ouverture sur le monde. Bon, enfin, je fais vite parce qu'il faudrait creuser davantage. J'invite d'ailleurs tous les tous les chercheurs à venir voir comment ça se passe. Hein.
Et sur la question de l'attention qui était soulevée à l'instant, est-ce que vous voyez un autre régime d'attention chez vos élèves?
Ben, si je vais vous dire c'est clair, c'est soutenu, vous allez me prendre pour quelqu'un qui fait du marketing, mais je pense que c'est une réalité en tout cas.
C'est-à-dire
leurs outils, ils arrivent à se les approprier d'une autre façon. Parce que c'est vrai que quand ils arrivent en classe, ils ont une habitude informatique, une habitude du téléphone qui est assez réseaux sociaux, quoi. Là, il s'agit de les faire travailler sur autre chose.
Voilà. Et c'est du vrai travail. C'est du vrai travail. Hein.
Et là, c'est très intéressant.
Merci Mathieu pour ce témoignage et invitation faite donc aux chercheurs d'aller voir comment ça se déroule dans cette classe. Philippe Biwix, une réaction ?
Non, je pense qu'on peut toujours trouver des bonnes expériences et bon, tant mieux pour Mathieu. Moi je veux juste citer un exemple sur la... Il y a des élèves qui ont plus la culture de l'écrit, d'autres ont probablement plus la culture de l'écran aussi, mais prenons un exemple sur l'histoire, le fait d'avoir un manuel d'histoire par exemple, qui est structuré de manière chronologique, rien que le fait de l'ouvrir et de feuilleter les pages pour aller à bonne leçon, ça structure déjà une partie de l'apprentissage sur l'aspect chronologique du fait que l'Antiquité est avant le Moyen-Âge et que le Moyen-Âge est avant la Révolution française. Quand vous avez plus ça et que vous êtes sur des ressources numériques quelque part, j'allais dire papillonnante, si, bon, passez-moi l'expression, ben vous, déjà ce minimum de structure-là, vous ne l'avez pas forcément. Et donc moi, je mets un peu en cause cette question-là. Alors là, on est sur une expérience peut-être de lycée, donc peut-être avec des gens qui ont été des élèves qui ont été structurés avant. Moi, je dis que quand on est sur des élèves qui ont 10, 11, 12 ans et qui confondent encore ce que c'est presque qu'un continent, un pays et une ville, être sur cette logique un peu d'ouverture sur le monde très papillonnante peut être dangereux. Alors si c'est bien fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme les méthodes Montessori et autres. Si c'est fait par des gens qui sont formidables et
oui, ça peut être un truc génial. Voilà, bon. Jérôme Lagaillarde.
Alors moi, ce que j'entends dans l'expérience de Mathieu, c'est quand même son intérêt pour les outils. Et je crois fondamentalement que quand l'enseignant est intéressé, quand il y croit, il remporte l'adhésion de ses élèves. Et je vois là encore une fois l'expression de la liberté pédagogique. Et ça, je pense que ça marche aussi parce que Mathieu, c'est sa façon de fonctionner. Mmh. Donc c'est très cohérent dans ses pratiques pédagogiques. Donc je crois qu'il faut aussi laisser aux enseignants la liberté de pouvoir faire du tout numérique s'ils veulent faire du tout numérique, mais aussi de pouvoir se dédouaner de ces injonctions.
Anne Cordier, sur l'expérience que décrivait Mathieu.
Ben moi, elle me parle parce que c'est celle que j'ai observée dans beaucoup d'établissements. Alors, pas avec un tout numérique, mais avec des enseignants qui, effectivement, trouvent leur place avec une nouvelle posture aussi. Hein. Il a parlé de cette manière, finalement, d'apprendre ensemble. On voit des communautés d'apprentissage réellement qui se créent, hein, avec des enseignants qui sont dans un rôle d'accompagnement, d'aide. Et il y a quand même des éléments qui sont intéressants. Juste une dernière chose, j'opposerai pas la culture de l'écrit et la culture de l'écran, parce que derrière l'écran, enfin, à travers l'écran,
il y a
c'est
aussi
de l'écrit.
De l'écrit, oui.
Hein,
oui.
Donc, je
pas
pense
le même,
que, cela dit. Et pas le même. Et justement, il nécessite un vrai apprentissage parce que cet écrit numérique, donc cette lecture numérique, elle est très différente lorsqu'elle se fait justement avec ce moyen technique.
Fabienne, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci. Donc, je suis professeure documentaliste en Seine-et-Marne dans un lycée. Et en fait, depuis 30 minutes, donc, l'émission tourne autour de la transmission de la culture du numérique. Et je m'étonne en fait que l'enseignant, dont c'est la mission principale, n'est pas du tout au cœur de votre sujet. Donc je parle du professeur documentaliste. Avec nos élèves, on apprend à sourcer une information, à la hiérarchiser, à utiliser par exemple les métadonnées d'une image qui est publiée en ligne. Et en fait, ce travail-là, on le fait au quotidien. Et je pense que notre métier souffre du manque de reconnaissance vis-à-vis de l'institution scolaire.
Vous êtes donc,
et des médias.
Vous êtes en première ligne, entre guillemets, Fabienne, sur cette question du numérique.
Oui, oui, totalement, oui.
Les métadonnées des photos, ça passe facilement comme enseignement ?
Bah oui, parce que ça permet de démonter un petit peu toutes les informations qui sont publiées, qui ne sont pas vérifiées, que les élèves souvent prennent pour argent comptant. Et donc, retracer l'histoire d'une image, par exemple d'une photo, ça sert à aiguiser leur esprit critique, notamment quand ils sont confrontés à des sujets un petit peu douloureux pour eux.
Merci Fabienne pour ce témoignage et un grand salut au professeur documentaliste Anne Cordier.
Ah bah alors là, bonjour Fabienne, que je ne connais pas, mais un grand bonjour aux professeurs documentalistes en général, parce qu'effectivement, j'espérais bien, alors non pas qu'on en entende carrément une, alors là c'est merveilleux, mais qu'on en parle, parce qu'effectivement, attention à ne pas confondre l'éducation par le numérique et l'éducation au numérique, avec une culture de l'information et des médias qui est très spécifique. Et on a dans les établissements scolaires, en effet, des enseignants qui ont un CAPES, qui sont formés en sciences de l'info et de la com, qui sont tout à fait à même de former ses élèves, et ce sont d'ailleurs ceux-là aussi que je vais observer sur le terrain. Et alors, j'ai beaucoup aimé votre question à Fabienne sur, finalement, les métadonnées...
C'est un vrai sujet, mais...
Bah, ça paraît aussi pénible que le subjonctif, finalement.
Oui, si on veut.
Mais il y a dans
aussi intéressant.
Ou aussi intéressant. C'est-à-dire que dans tout apprentissage, il y a un effort à fournir, mais il y a une clé derrière. Et c'est vrai que les cours... en culture de l'information et en médias que les enseignants documentalistes donnent, et moi que j'ai vu en partenariat avec des profs de discipline, donnent lieu chez les élèves à de véritables déclics. Parce qu'on travaille sur des pratiques du quotidien, sur des choses qui les interrogent. Quand ils sortent d'un cours en disant « Ah mais ça, je le savais pas !» et donc demain, je le ferai plus, ou alors je ferai autrement, eh ben, je pense
mission
que c'est
accomplie.
Mission accomplie.
Philippe Biwix.
Je pense que ce rôle-là, il est important de la même manière que le rôle du professeur de technologie qui pourrait ou qui peut dépiauter un ordinateur pour montrer ce qu'il y a dedans et que tout ça n'est pas virtuel et que c'est accroché sur des réseaux et où sont les data centers et qu'est-ce que c'est effectivement et qui paye Internet, c'est-à-dire que on croit que tout est gratuit, mais non. Si vous croyez que tout est gratuit, c'est parce que vous êtes le produit vendu. C'est des choses qui sont absolument indispensables, effectivement, à apprendre aux élèves. La question, c'est est-ce qu'on le fait à travers l'ensemble des matières à nouveau, ou est-ce qu'on le fait dans des matières et des approches très spécifiques?
Jérôme Lagaillarde.
Oui, ben moi je souligne aussi l'importance du professeur documentaliste, parce que je suis amené, moi, en tant que prof de lettres, à travailler très régulièrement avec mes collègues documentalistes, et c'est un très bon soutien dans les usages. On peut avoir en classe.
Merci à tous les trois, Jérôme Lagaillarde, Anne Cordier, Philippe Biwix, les titres des ouvrages de nos invités ce soir. Philippe Biwix avec Karine Movie, le désastre de l'école numérique aux éditions du Seuil. Anne Cordier chez CF Éditions, grandir connecté les adolescents et la recherche d'informations. Dans les deux cas, il s'agit de livres en papier. Merci, je le vois sur mes deux écrans d'ordinateur, aux très nombreux auditeurs d'Inter qui nous ont appelés ce soir au téléphone sonne.